Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La science ouverte et les logiciels libres. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique de Jean-Christophe Becquet sur documenter les caméras de surveillance grâce à OpenStreetMap, et aussi une interview par Isabella Vanni de Mohican qui nous parlera d'organisation d'ateliers d'émancipation numérique. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en direct, vous m'avez manqué. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 1er février 2022, nous diffusons direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Elle ne devait pas être présente aujourd'hui, mais elle remplace au pays levé notre collègue Étienne qui a un contretemps. Elle est affûtée, concentrée, va réaliser l'émission du jour. C'est ma collègue Isabella Vanni. Bonjour Isabella.
Bonjour Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Texte, image, vidéo ou base de données. Sélectionné par son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors le thème du jour, c'est la surveillance sous surveillance, autrement dit documenter les caméras avec OpenStreetMap.
En effet, je présente aujourd'hui le projet Surveillance Under Surveillance. Surveillance Under Surveillance propose de documenter les caméras partout dans le monde avec OpenStreetMap. Il s'agit d'un projet collaboratif, intégralement basé sur des logiciels libres et des données ouvertes. En France, la loi impose une obligation d'autorisation préalable pour l'installation de caméras surveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Les zones surveillées doivent également être signalées par des pancartes comportant un pictogramme représentant une caméra et les informations relatives aux droits informatiques et libertés. Cependant, il n'existe pas, à ma connaissance, de fichier open data permettant de suivre le déploiement de la vidéosurveillance au niveau national. On sait pourtant que la surveillance a un impact significatif sur les libertés individuelles. Ainsi, même s'ils n'en ont pas forcément conscience, les individus modifient leur comportement lorsqu'ils se savent surveillés. Il n'est donc pas nécessaire d'être mal intentionné pour se sentir concerné. Surveillance Under Surveillance s'inscrit donc parmi les innombrables initiatives citoyennes qui viennent combler un manque de transparence de l'administration. Il permet à chacun de suivre très simplement l'emprise de ces technologies. Donner à voir les dispositifs de vidéosurveillance sur une carte s'avère ainsi très éclairant. On peut zoomer sur son quartier ou explorer ses itinéraires de déplacement ou de promenade. Différentes icônes et couleurs permettent de symboliser les types de caméras fixes, panoramiques, dômes, lecture automatique des plaques d'immatriculation et des zones surveillées, intérieures, extérieures, publiques, privées. Le site fournit également des statistiques sur le nombre de caméras référencées par pays, par type ou par zone et leur évolution au cours du temps. La France se classe en deuxième position après l'Allemagne, avec 15% des caméras mondiales. L'année 2021 fait apparaître un pic, avec plus de 40 000 ajouts sur un total de 140 000 environ. On peut penser que cette évolution correspond à la somme de deux facteurs concomitants. L'augmentation très rapide du nombre de caméras installées et la présence d'une proportion de plus en plus importante de ce type d'objet dans la base OpenStreetMap. Pour ajouter une nouvelle caméra dans Surveillance Under Surveillance, il suffit de la référencer sur OpenStreetMap. La documentation disponible sur le site détaille les attributs à utiliser pour décrire la caméra, son champ de vision, l'opérateur responsable de son exploitation, etc. La base de données est mise à jour toutes les heures. Quelques minutes de patience et votre contribution sera donc visible sur la carte. Surveillance Under Surveillance. Ce projet illustre l'intérêt d'une base de données libre, enrichie et mise à jour à chaque instant par des millions de contributeurs dans le monde entier. Grâce à sa licence libre, OpenStreetMap permet de construire tout type de projet géographique. La réutilisation des données dès lors qu'elle respecte l'obligation de créditer les contributeurs et la clause copyleft de la licence ODBL, augmente l'audience d'OpenStreetMap. En fournissant une documentation accessible et un retour visuel immédiat, le projet Surveillance Under Surveillance encourage également les personnes à franchir le pas de la contribution. C'est un cercle vertueux rendu possible par les libertés accordées à tous et à toutes.
Merci Jean-Christophe, j'avoue que je ne connaissais pas du tout cet objet caméra de vidéosurveillance sur OpenStreetMap. Je vais préciser que la licence ODBL dont tu viens de parler, donc c'est Open Database License, donc une licence libre pour les bases de données. Je vais également préciser qu'on a parlé déjà deux fois au moins d'OpenStreetMap en détail dans l'émission, donc je renvoie les personnes qui nous écoutent aux émissions 29 et 37, et pour retrouver les émissions c'est facile, hein, c'est libreavoue.org/29 ou libreavoue.org/37, et donc vous retrouverez à la fois les podcasts et les transcriptions, et on peut préciser qu'on peut contribuer sur OpenStreetMap à la partie d'un ordinateur, mais aussi d'un téléphone mobile, c'est d'ailleurs souvent le plus simple.
Absolument, et OpenStreetMap est aujourd'hui devenu un projet très accessible et très ouvert, et donc il ne faut pas hésiter à faire ses premiers pas de contributeur ou de contributrice, et la communauté francophone est très bienveillante et vous prendra par la main si vous avez besoin d'aide.
Oui, je crois d'ailleurs que la communauté francophone a dû fêter ses 10 ans il n'y a pas longtemps, non ?
Absolument, oui, l'association OpenStreetMap fêtait ses 10 ans l'année dernière.
Ouais, c'était un bon souvenir. En plus, je crois que c'était la dernière fois qu'on s'est vu de façon physique.
Absolument, sur Paris.
Oui, exactement. Et écoute, Jean-Christophe, donc c'était la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bah écoute, on se retrouve pour la prochaine au mois de. Bah, très rapidement, en mars plutôt, on est déjà en février. Donc en mars. Bonne journée, Jean-Christophe. À bientôt.
Merci, bonne émission, à bientôt.
On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la science ouverte et les logiciels libres. Les deux invités sont déjà installés, prêts et prêtes à intervenir. Donc nous allons écouter en attendant K4Cool par Kuromaru. On se retrouve dans 2 minutes 50. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Eh bien, nous venons d'écouter K4Cool par Kuromaru, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur la science ouverte et les logiciels libres avec Mélanie Clément-Fontaine, professeure de droit privé à l'université de Paris-Saclay et Alexandre Hoquet, historien des sciences, professeur à l'université de Lorraine. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors première question toute simple, qui êtes-vous ? On va commencer par Alexandre. Vas-y.
D'accord. Je suis historien des sciences, donc, et mon sujet, c'est l'utilisation de logiciels en sciences, en particulier dans le domaine de la modélisation. Et mon étude de cas préférée, c'est ce qu'on appelle la modélisation de molécules entre les années 70 et aujourd'hui. Et c'est une histoire qui accompagne le logiciel depuis quasiment ses débuts.
D'accord. Mélanie ?
Eh bien, je suis enseignante-chercheuse, donc directement concernée par l'open science et la science ouverte. Et puis, mes thèmes de recherche concernent ces domaines, puisque je travaille depuis des années sur les logiciels libres. Et dans le prolongement, eh bien, je participe au plan national pour la science ouverte et je suis membre du groupe Logiciels libres et ouverts.
On a déjà eu le plaisir de t'avoir dans l'émission pour parler de licence libre pour les logiciels. Mais comme j'ai mal préparé cette partie, je ne me souviens pas du numéro, mais je sais que sur le salon web, on va me le signaler. Je pourrais vous le signaler. Alors donc, le sujet principal, donc science ouverte et logiciel libre. On ne va pas aborder toute la science ouverte, on vous prévient tout de suite pour les personnes qui écoutent, parce que c'est très très large. On va un petit peu se restreindre à la partie qui nous intéresse le plus, mais on va quand même commencer déjà par un petit peu parler de la science ouverte, parce que j'avoue que quand... alors je vais préciser une chose, d'ailleurs, c'est Alexandre, en fait, Hoquet, qui nous a contacté il y a quelques mois pour nous proposer ce sujet, donc que j'ai trouvé très intéressant, et je me suis dit quand même tout de suite que science ouverte, pour moi, ça veut dire qu'il y a de la science fermée, donc... Est-ce qu'on peut essayer de préciser un petit peu ce qu'est la science ouverte ? Est-ce qu'il y a une définition de la science ouverte, Mélanie ?
Alors, je vais retenir une définition générale et presque institutionnelle qui consiste à dire que la science ouverte, c'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche financées sur des fonds publics. Alors, l'objectif est à la fois économique et démocratique. Il s'agit de permettre à toutes et à tous l'accès au savoir à des fins de formation, de recherche, d'innovation. Et la science ouverte doit également favoriser la transparence de la recherche et donc est un levier pour l'intégrité scientifique.
Mais alors quelque part, j'aurais envie de dire, c'est la science doit fonctionner comme ça. Donc, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Alexandre Hoquet.
Alors, pour faire une petite historicisation du concept, c'est donc il y a une version institutionnelle, mais il y a aussi des initiatives qui datent de plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui viennent de la base dans certaines situations, dans certaines communautés. Par exemple, il y a toujours un mécontentement envers l'industrie de l'édition scientifique et les profits qu'elle réalise. Il y a un mécontentement envers le processus même de publication, ce qui fait sa validité, le fait qu'il est relu par les pairs, c'est considéré par certains comme un processus qui est toujours un peu opaque, et donc qui demande des changements dans le processus même de validation des publications, etc. Il y a des initiatives qui appellent aussi à plus d'inclusivité, comme par exemple la promotion d'une science citoyenne, ce genre de choses.
D'accord. Et en termes historiques, est-ce que vous pourriez positionner quelques dates dans l'histoire de la science, en tout cas, est-ce que c'est récent ce concept de science ouverte ? Est-ce que ça a été lancé à un moment par une structure qui le formalise ? Et c'est avant qu'on parle un petit peu des avantages et peut-être aussi des limites, quelques dates peut-être pour un petit peu positionner ça dans l'histoire ? Qui veut répondre ?
Alors,
vas-y Alexandre,
pour continuer sur ce que je disais, il y a dans la science ouverte une référence souvent implicite au principe du libre, et donc du coup historiquement il y a quelque chose qui est lié, disons, aux années 80-90 où d'une part il y avait une industrie du logiciel représentée par Microsoft, quoi, pour faire vite, qui correspond à quelque chose des pratiques de plus en plus fermées dans le monde du logiciel, avec le lock-in, etc.
Avec quoi ?
Le lock-in, c'est-à-dire la captation des utilisateurs. D'accord. C'est une technique classique de Microsoft. Et donc, il y a aussi une transformation du monde académique de cette époque-là, qui est très néolibéral. Reagan, Thatcher, encouragement du recours aux brevets, à la création de start-up, et particulièrement dans les sciences du vivant. Et du coup, en opposition, des principes du libre qui sont eux-mêmes liés à une vision de la science en réaction à cette évolution, le désintéressement, l'universalisme, la mise en commun, etc.
D'accord. Mélanie ?
Oui, alors tu évoquais le fait qu'il y ait de la science fermée. Oui, il y a de la science fermée parce que les productions intellectuelles relèvent d'un droit de propriété intellectuelle et le propre de ce droit, c'est de créer un monopole. Donc de permettre à quiconque qui dispose de ces droits de s'opposer à l'utilisation, la réutilisation de ces contenus scientifiques. Alors en contrepoids, il y a eu le logiciel libre qui vient d'être évoqué, qui a donné une autre façon d'envisager le rapport à la production intellectuelle. Et à cela s'est mêlée aussi toute la politique de l'open data qui consiste à mettre à disposition les données publiques. Alors ça, c'est ancien, hein, ça date des années 70 et ça n'a été que renforcé dans le temps. Donc ces deux mouvements venant du public, venant du privé, eh bien, se sont réunis dans cette notion de science ouverte et des institutions internationales se sont emparés de cette question. L'UNESCO, par exemple, a fait une déclaration sur la science et l'utilisation du savoir scientifique en 99. L'OCDE a publié en 2006 des lignes directrices en vue de guider vers cette science ouverte. Donc d'élargir finalement la mise à disposition, partant des données publiques, à plutôt des contenus scientifiques et des données scientifiques. Donc c'est un vrai élargissement d'un mouvement qui vient d'initiatives privées, logiciel libre, et d'initiatives publiques telles qu'on le voit.
D'accord. Tu voulais compléter, Alexandre ?
Bon, je voulais aussi juste dire que la science, c'est aussi une compétition. Hein. Donc, il y a un côté, selon les époques et les contextes, cette compétition se traduit par plus ou moins de secrets ou plus ou moins d'ouverture selon des tas d'influences. En particulier, il y a une influence du capitalisme aussi. Hein, c'est que selon les contextes aussi, le business, il demande plus de secrets, comme par exemple dans l'industrie pharmaceutique, les molécules.
On parle beaucoup en ce moment.
Voilà. Ou par ailleurs, aussi, il peut demander plus d'ouverture, comme par exemple la demande de moins de barrières à la circulation de l'information pour pouvoir créer un marché de la donnée, par exemple.
D'accord. Il y a sur salon. Ah, je précise que si vous voulez intervenir pendant l'émission, n'hésitez pas à venir sur le salon web de la radio, hein, site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. D'ailleurs, une remarque d'une personne qui dit que si c'est fermé, c'est de la recherche et développement, pas de la science. Donc, est-ce que par défaut, la science ne devrait pas être en fait ouverte ?
Je suis d'accord. La science, c'est la confrontation de différentes analyses, de différents points de vue. C'est pour ça que le chercheur, lui, il n'a de cesse d'avoir accès à de plus en plus de contenu, un fond commun de connaissances. Donc, il y a un paradoxe à poser des entraves à l'accès à ce savoir. Mais il se trouve qu'il y a aussi des contraintes économiques, c'est-à-dire que diffuser des contenus, ça a un coût. Il y a un savoir-faire. Et moi, par exemple, en tant que chercheuse, je suis capable de faire du contenu scientifique, mais alors éditer un ouvrage, que ça soit en ligne, sous papier, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas les compétences. Donc, on a forcément recours à des fonds. Et quand ils sont privés, eh bien, en contrepartie, évidemment, on va nous demander une exclusivité sur notre production scientifique.
D'accord.
Par ailleurs, il y a toujours une tension entre ce que la science devrait être et ce que la science est en pratique. La science, c'est aussi une industrie, hein, donc la question du secret et de l'ouverture, elle se pose aussi des fois en termes industriels, dans les instruments scientifiques, par exemple.
Alors, est-ce que la science ouverte, alors je précise que j'y connais vraiment pas grand-chose, hein, est-ce que la science ouverte s'oppose quelque part finalement à moi l'image qu'on a, enfin que souvent je pense les gens ont un petit peu des publications scientifiques, c'est ces fameuses grandes revues pour lesquelles les chercheurs et les chercheuses doivent payer pour être édité, pour être publié, et que les autres doivent payer pour avoir accès. Donc est-ce que ça correspond à une réalité avec ces grandes revues, et est-ce que la science ouverte finalement quelque part s'oppose à cette logique ou pas du tout? Émilie Clément Fontaine.
Je dirais que c'est une alternative. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. C'est comme le logiciel libre. Il y a toujours des diffusions dites propriétaires de logiciels. Ça répond à un système économique, à un modèle économique. Et à côté de ça, eh bien, on peut faire autrement. Et c'est cela qui est intéressant. C'est cette pluralité de diffusion. Et c'est vrai que là, on parle de contenus et de données qui sont produites avec des fonds publics. public. Donc il y a une certaine logique à ce que les personnes qui ont contribué financièrement par les impôts, par les taxes, à financer cette recherche publique puissent en retour avoir accès à ce fonds commun. C'est une belle chose que d'avoir ce domaine public qui s'étend et à destination de toutes et tous.
Alexandre ? Moi, je dirais aussi que les textes scientifiques, comme les pratiques scientifiques en général, ils dépendent eux-mêmes de beaucoup de ils sont pas les mêmes dans, d'une communauté à l'autre, comme par exemple, la façon de publier n'est pas la même. Les différentes sociétés savantes ont pas la même approche de la question de est-ce que les textes doivent être en libre accès ou pas, par exemple. Certains domaines de la science, particulièrement en sciences humaines, ils comptent beaucoup sur le livre, et donc ils dépendent beaucoup sur des négociations avec des maisons d'édition.
C'est-à-dire pour que leur livre soit édité, c'est ça.
Voilà, et qu'ils aient la plus grande publicité possible aussi. Quoi. Il y a du prestige différent dans les différentes maisons d'édition. Et il y a d'autres domaines, comme par exemple la physique des particules, où là, les gens sont complètement mis en commun tout, une façon de publier qui radicalement s'oppose aux grandes maisons d'édition et propose eux-mêmes leur, comme Archive, quoi, eux-mêmes leur propre dépôt de publication qui ne dépendent pas.
Archive.org, le site.
Ouais.
Je vais relayer la question que je vois là sur le salon web, mais juste avant, ta remarque me fait venir une question par rapport à ces publications, cette importance. Quel rôle joue pour les chercheurs et les chercheuses par rapport à votre avancement de carrière? Alors, je mets entre guillemets, hein, en tout cas par rapport à votre carrière, le fait d'être publié dans des revues ou des livres, est-ce que ça a un impact? Quel impact ça a, tout simplement?
Ça, c'est un sujet qui est vraiment discuté, par exemple, dans le programme de la science ouverte, le plan national, parce que nous sommes évalués par nos publications. Donc, c'est une question sensible. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de valoriser, justement, les publications libres. Et pour cela, eh bien, il y a une création d'une plateforme nationale il existe HAL, et c'est
Alors HAL, H-A-L. Tu te souviens ce que ça veut dire
Je me souviens plus.
Hyper archive en ligne, je crois.
Oui, peut-être ouais. Un truc comme ça.
Ouais. Désolée. À force d'utiliser des acronymes, on en perd le sens. Donc c'est un véritable enjeu pour les scientifiques. Un autre enjeu, c'est l'usage de la langue, parce que diffuser, c'est une chose, être compris par le reste du monde, c'en est une autre. Donc là aussi, il y a un véritable effort à mener, un accompagnement à faire. Il ne suffit pas de déclarer que ça va être ouvert, ça va être accessible à tous pour que ça fonctionne. Donc c'est un engagement, c'est un accompagnement, c'est des moyens qui doivent être mis en œuvre.
Alors par rapport à ça, je te laisserai dire Alexandre, ma compréhension de la publication par des revues scientifiques, c'est qu'il y a une obligation, en tout cas un engagement, de valider le contenu par le relecture, par les pairs, etc. Si j'avais bien compris, vous me corrigerez. Et donc ma question est, dans le cadre de la science ouverte, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Ou est-ce que simplement, n'importe quel scientifique peut publier sur une archive, comme on vient de dire voilà, mes recherches, est-ce qu'il y a une sorte de validation ou de revue par les pairs? Alexandre.
Alors, il y a une remise en cause de ce principe, ouais. Parce que effectivement, d'une part, par exemple, en archive, c'est ce qu'on appelle un préprint, quelque chose qui, dans la pandémie, s'est répandu dans le monde, alors qu'avant, c'était un objet assez obscur, c'est-à-dire quelque chose qu'on met en ligne pour pouvoir être lu avant même...
Qu'il soit publié.
Voilà, avant même qu'il soit même validé. Par
validé,
les
d'accord.
Ouais. Et bon, voilà, il y a à la fois une question de rapidité, parce que être le premier, c'est quelque chose qui compte énormément en science, mais il y a aussi une question de diffusion, de faire savoir, de médiatisation. Et par ailleurs, il y a une forme aussi radicale de relecture qui consiste à dire je mets mon texte ouvert à la communauté et par exemple, ça peut exister qu'il soit commentable et que donc n'importe qui, comme dans Wikipédia par exemple, n'importe qui peut à ce moment-là commenter. Et ce qui est,
on laissera Mélanie réagir.
Ce qui est une version radicale d'être ouvert, mais pas une version qui du coup, qui peut être en tension avec qu'est-ce que c'est que être accepté par ses pairs et par qui sont les pairs exactement, etc.
Ok, alors Mélanie Clément-Fontaine, tu as réagi sur l'analogie avec Wikipédia.
Oui, parce que là, je crois qu'il n'y a pas un modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce modèle Wikipédia où il y a quand même des règles éditoriales qui sont assez fortes. Hein, et on ne peut pas tracer un seul modèle de diffusion d'ouvrages en sciences ouvertes. Je crois qu'il y a, il va falloir s'adapter aux différents cas. Certains papiers doivent, il est bon qu'ils soient relus, qu'il y ait des pairs qui attestent de la valeur scientifique. D'autres, il est bon qu'ils soient diffusés vite. Donc, à chaque cas, son modèle. Ce qui va se poser, alors ça, c'est une question, hein, l'évaluation, la traçabilité aussi, la source, ça c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de désinformation. Donc, il s'agit ici aussi avec la science ouverte de renforcer la qualité des contenus aussi que l'on trouve en ligne. Il y a une vraie bataille culturelle, de diversité culturelle et de qualité qui est derrière ce mouvement de science ouverte. Et donc, tout cela, eh bien, va sans doute être accompagné aussi de conditions d'accès, de diffusion, et ça pourrait prendre la forme de licences comme on les connaît dans les licences, dans les logiciels libres.
D'accord. Alors, je relaye une petite question sur le salon web avant de poursuivre. Il faut juste que je la retrouve. C'était par rapport aux langues dont tu parlais tout à l'heure, Mélanie. Il y a Marie-Odile qui demande si les publications sont toujours en anglais.
Non, bien sûr que non. D'accord. Non, la francophonie est encore défendue aujourd'hui, et puis d'autres langues, bien sûr. Et quand je parle de diversité, ça c'est très très important. C'est-à-dire, il s'agit effectivement de rencontrer l'autre, donc de se faire comprendre, et les traductions sont importantes. Mais le langage initial, la langue initiale, elle a son importance, surtout dans des domaines en sciences humaines où les mots n'ont pas de traduction immédiate dans d'autres langues.
Oui, en sciences humaines. Donc, la situation, elle est très, très différente dans d'autres communautés. Hein. Il y a des communautés où ce n'est même pas envisageable de publier en autre chose qu'en anglais. Ça ne servirait à rien d'un point de vue de la logique de combien compte une publication, quoi.
D'accord. Ouais. Alors, j'ai une question. On a parlé de la science ouverte, donc de l'accès aux publications, mais les recherches scientifiques s'appuient aussi sur des données, sur des méthodes. Est-ce que la science ouverte, ça veut dire que toutes les données sont toujours également accessibles de manière à pouvoir vérifier ce qu'affirme la personne qui a publié, voire reproduire? Est-ce qu'il n'y a pas des limites, par exemple, on parle de sciences humaines au niveau de la vie privée, peut-être, je ne sais pas, sur des échanges personnels qui pourraient, voilà. Sur la question, dans la science ouverte, qu'est-ce qui est ouvert, en fait? C'est la publication, c'est les données, les logiciels, on en parle. Alors après, est-ce que c'est les méthodes de la recherche aussi? Qui veut commencer? Ou qui veut répondre? Alexandre, vas-y.
Dans la définition que Mélanie a donnée tout à l'heure, il y avait accès et données, hein, si je me souviens bien, qui sont les deux grands piliers. Je parle de piliers parce que je sais que Roberto Di Cosmo, quand il parle du logiciel, il parle du troisième pilier, on va y revenir, j'imagine. Et donc, effectivement, accès, c'est les textes, et données, c'est les données. Et l'idée que pour pouvoir avoir confiance dans une expérience qui a eu lieu, qui a été publiée, le texte d'une publication suffit pas pour essayer de refaire la même chose. Donc l'idée des données, ce qui est contestable d'un point de vue de la philosophie des sciences, mais l'idée des données ouvertes et fournies, c'est que on peut les réutiliser, d'où l'utilisation de licence Creative Commons, parce que c'est la question, c'est la réutilisation.
Ouais.
Et donc, le problème, cette fois, du point de vue de l'historien, du philosophe des sciences, c'est que les données d'une expérience, elles sont situées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles dépendent largement de comment l'expérience a été faite, de quelle valeur, de quelle théorie la personne a mis dedans, et les données qu'il récupère, une fois qu'on les transpose dans un autre contexte, essayer de refaire la même expérience, par exemple, elle supporte mal le voyage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est pas du tout naturel qu'une donnée puisse être reprise sans que ça transforme quelque chose à sa valeur scientifique et sa valeur épistémique.
D'accord. Mélanie?
La science ouverte, tout dépendra de ce qu'on en fera. Et donc, si on veut que ça soit aussi un moyen de transparence de la recherche, et notamment avec des thèmes comme la bioéthique ou l'intelligence artificielle qui vont avoir une incidence très importante dans nos sociétés, eh bien, il faut effectivement une transparence des sources. Mais en principe, la recherche, c'est ça. C'est aussi donner ses sources. Donc, tout dépendra de la politique qu'on défend de la science ouverte. Ensuite, ça peut constituer des freins si l'on veut, mais c'est surtout des garde-fous. Il y a des questions telles que la protection des données personnelles, des données sensibles, la confidentialité, la sécurité. Il y a des intérêts commerciaux légitimes qui pourraient réduire, en tout cas freiner certaines mises à disposition. Eh bien, cet équilibre, il est à trouver, et on parle d'un principe aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. Voilà l'équilibre qu'on va chercher.
D'accord. Alors, Quels sont en fait les avantages de la science ouverte et l'intérêt à la fois pour les scientifiques, mais pour le public? Première question, déjà, en vous en tant que scientifique, quels avantages vous voyez à la science ouverte? Et après, je vous poserai vraiment la question sur les freins ou et les éventuelles limites. Et déjà, pour vous en tant que scientifique.
Je l'ai dit plus tôt, c'est le dynamisme intellectuel. C'est évidemment accéder à des connaissances pour continuer sa recherche. C'est l'innovation. Certains parlent d'innovation, moi j'aime pas tellement ce terme, mais il existe. C'est aussi un enjeu démocratique, c'est-à-dire l'accès à tout à chacun au savoir, la transparence, l'éthique. Donc ce sont là tous les enjeux qui font qu'on s'engage dans ce mouvement de la science ouverte.
Alexandre Roquet ?
Oui, pour compléter, c'est à peu près la même chose, mais pour compléter, il y a aussi l'espoir de ne plus dépendre d'une énorme industrie qui est très peu populaire dans le monde de la science, mais qui est intrinsèquement liée au monde de la science, qui est celle de l'édition scientifique, et à laquelle on reproche beaucoup de choses. Les scientifiques reprochent beaucoup de choses. Et bon, mais pour des raisons historiques, ils y sont quand même complètement liés.
D'accord. Alors, je poursuis ma question, après les avantages et intérêts, est-ce qu'il y a des limites ou des freins pour la science ouverte ? Freins qui peuvent être institutionnels ou autres, je ne sais pas, ou limites. Est-ce que vous en voyez? Il n'y en a peut-être pas. Hein.
Oui, non,
la question est ouverte.
Ah ben moi j'en vois plein.
J'en ai évoqué quelques-uns avec justement des données que l'on ne va pas divulguer pour des raisons diverses.
Est-ce qu'il y a des freins institutionnels ou autres, Alexandre Roquet, visiblement, t'en vois plein. Ou deux principaux.
Moi, je dirais, si je devais le citer, je pense qu'il y en a plein. Si je devais en citer un, je pense qu'il y a un frein industriel. La science, c'est quelque chose qui dans plein de domaines, pas tous, hein, pas les mathématiques par exemple, qui dépend d'une industrie scientifique, hein, qui est celle des instruments par exemple. Et donc, par exemple, je sais pas moi, un spectroscope de résonance magnétique nucléaire, ça, c'est quelque chose c'est un instrument scientifique très courant, mais qui a aussi un énorme investissement. Ça coûte des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Et c'est quelque chose qui repose sur des compagnies qui vendent ces instruments et pour qui la confiance de l'instrument est absolument pas basée sur le fait que l'instrument est transparent. Il l'est pas du tout. Il y a même des secrets industriels, etc. Par contre, la confiance, personne, mais il y a beaucoup moins de contestations quant à la validité des résultats que donne un de ces spectroscopes, par exemple.
D'accord.
C'est qu'il y a eu un énorme processus d'acculturation des scientifiques qui l'utilisent à un appareil qui a gagné sa légitimité par un processus de négociation entre industriels et scientifiques. Et en l'occurrence, là, la confiance, elle n'est pas du tout sur le fait qu'il est transparent, il ne l'est pas.
D'accord. Mélanie, tu voulais compléter ?
Oui, ça rejoint la question du financement. La science ouverte vise les publications et les données de la recherche financées par des fonds publics. Donc à partir du moment où on dépend de fonds privés, on n'est plus dans le cadre de la science ouverte. Ça va être la fracture, et il y a beaucoup de projets qui ont un double financement. Donc là, il va y avoir des tensions nécessairement entre deux mouvements, celui de la réservation, du secret, de la propriété, et celui de l'ouverture, la diffusion.
D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres ou en tout cas des tendances sur l'évolution des publications en sens ouvert, que ce soit dans le monde ou en France, sur ces dernières années ?
Alors, vous en retrouverez sur le site. J'ai vu qu'il y avait des liens qui avaient
été mis. Oui, alors tous les liens qu'on citera, on ne va pas vous les répéter, vous irez sur libreavoue.org et vous aurez la liste de tous les liens.
Mais... voilà, sur le plan national de la science ouverte qui montre qu'il y a une évolution. Il y a véritablement beaucoup plus de publications en science ouverte.
Et
l'objectif, et l'objectif, c'est d'atteindre 100% d'ici 2030. Voilà, c'est le projet.
Alors, l'objectif en France ou dans le monde ?
En France.
Ah, en
là,
France.
On parle du plan national de la science ouverte.
Donc 100% par contre sur les recherches financées sur fonds publics.
Exactement.
D'accord. Tu voulais compléter, Alexandre ?
Non, c'est ça.
D'accord. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le salon web, en fait, sur la partie logicielle. Donc, je vous préviens, on va l'aborder. D'ailleurs, on va bientôt faire une pause musicale et on abordera la partie logicielle juste après. Sur cette partie introductive à la science ouverte, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant qu'on fasse la pause musicale ? On peut y revenir dans le cours de l'émission, mais le temps avance. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé ? On reviendra évidemment sur le plan dont on a parlé dans la deuxième partie de l'émission. Cette introduction.
Moi, je suis pressé de passer à la partie logicielle.
Je sais bien. Il est à fond, il est dans les starting blocks. Mélanie.
On voit bien qu'il y a, eu une conjonction de circonstances qui sont favorables, qui a été favorable à l'émergence de la science ouverte et le lien qu'il y a avec les logiciels libres, ce qu'on développera sans doute dans la deuxième partie.
Ben, on va aborder ça effectivement dans la deuxième partie. Donc, en attendant, nous allons faire une courte pause musicale. Si je me souviens bien, on va aller du côté du Brésil. Nous allons écouter Benvido par Madame Rose, C'est la vie. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Aborrecido, problema esquecido. Nada divertido, porque não terei ido. Veja o perigo, ninguém me dá abrigo. Não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo. Pra onde estou indo agora é que eu não ligo. Não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo. Pra onde estou indo agora é que eu não ligo.
Trouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous venons d'écouter Benvido par Madame Rose, C'est la vie. Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc nous allons poursuivre notre discussion sur la science ouverte et les logiciels libres, donc avec Mélanie Clément-Fontaine, qui est professeure de droit privé à l'Université de Paris-Saclay, et Alexandre Roquet, qui est historien des sciences, professeur à l'Université de Lorraine. Donc juste avant la pause musicale, on parlait de science ouverte en général, mais notre émission est consacrée principalement aux libertés informatiques et notamment aux logiciels libres. Donc on va un petit peu maintenant aborder la question du logiciel, même si on reviendra sur le plan pour la science ouverte dont on a parlé tout à l'heure, hein, on y reviendra. Avant de relayer les questions que j'ai vues sur le salon web passé, je vous rappelle causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alexandre, ok. Moi, en préparant l'émission, je me suis dit, mais quels sont les logiciels utilisés, alors libre ou pas, peu importe pour l'instant, dans le monde de la science? Et je me suis dit, mais j'en ai aucune idée. Alors, c'est quoi les logiciels dans le monde de la science?
Alors, puisque vous me posez la question, donc les logiciels auxquels on pense en premier, hein, quand on pense logiciels en science, sont les logiciels créés par les informaticiens. Donc, dans le domaine de l'informatique, la computer science, ils sont souvent l'objet...
La science informatique.
La science informatique. Ouais. Et ils sont souvent l'objet lui-même de la recherche. C'est-à-dire que produire un logiciel fait partie du produit de recherche qu'a l'informaticien. Mais ça représente qu'une toute petite partie des logiciels utilisés en science. Par exemple, si vous êtes modélisateur du climat ou épidémiologiste, vous développez des modèles et vous créez des logiciels qui vont les transformer en calculs sur l'ordinateur. Mais le code lui-même, ce que vous avez créé, n'est pas l'objet lui-même de la recherche. Ce qui fait une énorme différence. Et ensuite, il y a tous les instruments scientifiques dont on vient de parler, ils contiennent en eux des logiciels. Évidemment, traitement du signal, traitement de la donnée, c'est des choses qui sont dans tous les instruments. Il n'y a plus aucun instrument scientifique qui n'ait pas, qui a une partie logicielle importante en lui et propriétaire. Et donc, ça, c'est une énorme partie invisibilisée des logiciels. Et ensuite, il y a, impossible de faire une liste, hein, mais il y a plein d'usages possibles. Et il y a aussi énormément de logiciels utilisés qui ne sont pas eux-mêmes scientifiques. Photoshop, c'est largement utilisé dans le traitement d'images en science.
Ah oui.
Et avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer, hein, il pourrait utiliser GIMP, il existe des logiciels libres de traitement d'images, ImageJ, je crois, créés par des scientifiques dont c'est le boulot de montrer des images, particulièrement en biologie moléculaire. Les gels d'électrophorèse, c'est des photos qui sont les preuves. Et il y a Excel, qui est largement utilisé pour des utilisations qui n'ont même pas grand-chose à voir avec un tableur, comme par exemple lister des grandes listes de données qu'on met en supplémentaire immatériel, matériel supplémentaire dans les publications, justement pour pouvoir ouvrir les archives. C'est sous format souvent XLSX et largement un format très peu ouvert. Et il n'y a pas tellement de raison d'utiliser un tableur plutôt que de faire un fichier texte tabulé, quoi. Et, oui. Et pourtant, c'est une pratique qui est vraiment très très répandue.
D'accord. Mais c'est une pratique qui est liée en fait à la pratique personnelle des scientifiques, ou est-ce que c'est une obligation entre guillemets par rapport à leur institution ?
C'est pas une obligation du tout. C'est leur culture qui veut ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est pas vraiment de la science d'utiliser Excel pour faire des listes de tableaux, mais n'empêche que ça a des conséquences épistémiques. C'est-à-dire que ça a des conséquences sur comment la science marche en pratique. Et ces pratiques-là sont largement dépendantes de la culture des gens. Donc de ce à quoi ils sont habitués d'utiliser comme outil. Et Excel et Word en font partie.
D'accord. Et tu disais que c'était principalement développé par des informaticiens et des informaticiennes, mais est-ce que les chercheurs et les chercheuses développent, parce que bon, c'est des gens qui, avec des langages, peuvent développer elles-mêmes en fait des logiciels, par rapport à un besoin spécifique. Carrément. De leur recherche. Je suppose en fait qu'il y a plein de logiciels qui existent qui correspondent à une seule recherche. Est-ce que c'est ça ou pas ?
Il y a des milliards de scripts Python, de GitHub et plein de codes.
Alors GitHub, c'est une plateforme sur laquelle on peut héberger des logiciels libres, elle-même n'étant pas libre.
Voilà, c'est bon. Mais parce qu'effectivement, il existe d'utilisation. D'informatique pas amateur, mais dont ce n'est pas le cœur du métier, et pour pouvoir résoudre des problèmes ponctuels. Par des scripts Python, il y en a des centaines, des milliers.
Alors, Mélanie, tu veux intervenir ? Vas-y.
Oui, alors il y a deux, on le voit, il y a deux niveaux. Il y a le chercheur lambda qui n'est pas informaticien et qui utilise des outils. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les établissements publics tels que les universités, il y a eu quand même tout un discours pour inciter les chercheurs à utiliser des logiciels libres et donc un peu lâcher Word, Excel et Anko. Donc ça, c'est une chose, et c'est aussi inciter les étudiants, futurs chercheurs, à utiliser. Donc c'est logiciels libres. Et puis la deuxième chose, c'est que l'on constate qu'il y a une production, au moins en France, de logiciels libres importants. Là, on a ouvert un prix du logiciel libre. Il y a eu quand même 129 candidatures d'excellente qualité. Et donc, ce prix, il a pour objectif de mettre justement en lumière ces projets, et identifier ces projets d'excellence qui pourraient servir de modèle aussi pour les autres. Et donc, a été ciblé notamment les qualités de pertinence scientifique et technique, ça c'est un premier prix, aussi la synergie communautaire autour du projet, ça c'est un second prix, la documentation qui paraît important, et puis il y a le prix suprême qui réunit toutes ces qualités, c'est le quatrième prix, ou le premier prix si on veut.
Il y a aussi
J'ai juste précisé que l'annonce des résultats sera dans quelques jours. Alors peut-être que quand le podcast sera disponible, les résultats seront disponibles, mais en tout cas on les mettra évidemment en référence sur libreavoue.org, et c'est le prix de la science ouverte du logiciel libre de la recherche. Il y a quatre catégories, donc on mettra évidemment les références. Alexandre ?
Oui, je voulais juste dire aussi qu'il y a il y a des tensions institutionnelles parfois à l'intérieur même de l'université, parce qu'il y a une vraie volonté politique, par exemple il y a des chargés de mission de la science ouverte dans les universités, donc qui encourage effectivement à adopter le libre, disons. Mais d'un autre côté, il y a d'autres structures dans l'université, comme les offices juridiques, par exemple, qui ont au contraire une attitude qui, parfois, est à l'opposé du libre, qui recommande de déposer
des brevets. Tu voudrais dire que les experts en droit d'auteur veulent plutôt restreindre la diffusion ?
Ça se passe dans le cas de photographie, par exemple. Photographie, ouais. Mais ensuite, d'accord. Mélanie est sûrement plus qualifiée que moi pour avoir un meilleur panorama que moi de ces questions, mais il y a des tensions à l'intérieur même des institutions aussi.
Alors, avant de parler de cet aspect-là, on va en parler, je l'oublie pas, notamment sur l'aspect licence. Je vais quand même relayer une question qui était sur le salon web donc tout à l'heure, et par rapport donc aux recherches qui utilisent des logiciels. On sait que les logiciels, souvent ils ont des bugs, hein. Donc il doit y avoir forcément des résultats de recherche scientifique qui sont faux, non pas par rapport aux données, mais par rapport au logiciel qui est bugué. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'on a souvent cette impression-là après vérification? Et quelque part, est-ce que d'abord, je vais poser cette question. Est-ce que ça arrive souvent?
Ça arrive tout le temps.
Tout le temps?
Oui.
D'accord.
Oui. Disons que c'est la question du logiciel et de la science ouverte. C'est aussi une question d'avoir confiance dans les calculs. Et c'est aussi une question. Donc, c'est pour ça que la science ouverte, on l'associe vraiment très souvent à la notion de transparence. Donc, à la notion de reproductibilité des résultats et ce genre de choses. Et donc, ces questions-là, en particulier que les logiciels, dans les années 2020 et 2010 aussi, c'est de plus en plus leur complexité, c'est qu'ils font appel à d'autres logiciels. Il y a des interdépendances de librairies, ça c'est quelque chose que les auditeurs connaissent parfaitement très bien, et en science ça existe aussi. C'est très difficile de, même si vous avez publié votre logiciel 10 ans avant pour être ouvert, c'est très très difficile de refaire le calcul pour des tas de questions de d'interdépendance de librairies qui ont évolué entre temps, par exemple.
Donc ça suppose qu'il faut archiver aussi avec les données le logiciel tel qu'il a été utilisé au moment du calcul.
Voilà, oui.
Idéalement.
Et j'imagine que c'est un des avantages que préconisent le Roberto Di Cosmo et le Software Heritage, par exemple. Peut-être Mélanie est plus que moi là-dessus, mais il y a la question de pouvoir reproduire des vieux logiciels.
Alors, juste préciser donc, que Software Heritage, c'est un projet de plusieurs structures, dont notamment l'INRIA. Si je me souviens bien, Roberto Di Cosmo était chercheur là-bas. L'idée, c'est de faire une archive mondiale de logiciels, pas forcément logiciels libres. On a invité Roberto Di Cosmo dans Libre à vous. Donc, vous y allez sur libreavous.org et vous cherchez le moteur de recherche Roberto Di Cosmo et vous trouverez. Sinon, on mettra le numéro de l'émission ici. Oui, tu voulais compléter ou c'est...
Non, non, c'est effectivement quelqu'un qui est aussi un acteur bien connu dans le monde du livre.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
On peut ajouter que c'est un des défis du groupe de logiciels libres du plan national de la recherche qui va devenir un collège. C'est cet archivage justement des logiciels.
On va en parler. Voilà. Ouais. Alors l'émission avec Roberto Di Cosmo, Software Heritage, c'est l'émission numéro 13. Alors je vous rappelle, sur le nouveau site web de Libre à vous, vous êtes libreavous.org/ le numéro de l'émission, donc /13, et vous retrouvez le podcast et la transcription. Et comme c'est une émission que ça fait longtemps qu'on l'a faite, le numéro 13, sachant qu'on est là 130 aujourd'hui. Je pense qu'on va réinviter un moment Roberto pour avoir un petit peu une mise à jour de savoir où on en est. Tout à l'heure, Alexandre, tu parlais des services juridiques, des instituts de recherche et autres, et j'avais l'impression que tu avais envie d'en dire beaucoup de mal, mais je vais pas te relancer là-dessus. Mais par contre, j'aimerais bien avoir l'avis de Mélanie sur le sujet. Quelle est justement la... Parce que c'est vrai qu'on a un peu dans l'idée, peut-être, que du côté des services juridiques, on aurait plutôt envie d'essayer de conserver les droits d'auteur, etc., et autres, de contrôler pour... essayer d'en faire un maximum de fric quelque part. Est-ce que ça, c'est toujours comme ça ou pas du tout? Ou c'est une image totalement fausse que j'ai? Comment ça fonctionne?
Ça dépend où on se trouve. Quand on est dans des établissements publics, oui, il y a une question de valorisation. On connaît ce modèle. En fait, c'est une question de formation. Si vous avez un service juridique qui est formé, qui est constitué de juristes qui n'ont pas été sensibilisés à ces questions, ils appliquent leur modèle de valorisation. Donc, il y a une vraie transformation d'état d'esprit à faire. Et j'ai un master. J'essaye de former des futurs juristes qui seront dans ces bureaux de valorisation pour vers la science ouverte, vers les modèles libres, les licences libres, afin qu'ils sachent qu'il y a des alternatives et selon les projets, eh bien, il sera pertinent plutôt d'aller vers du propriétaire et selon d'autres, plutôt vers une ouverture libre, science ouverte, etc.
Mais en tout cas, d'un point de vue logiciel, dans le concept de science ouverte, le fait que ce soit du logiciel libre, c'est, enfin, je rappelle une obligation parce que je suis pas sûr qu'il y ait une définition, mais est-ce que c'est une obligation quelque part pour que ça rentre dans le mécanisme de science ouverte, le fait que s'il y a des logiciels, ils doivent forcément être libérés sous une licence libre? Est-ce que ça rentre dans les critères de science ouverte? C'est-à-dire que
Mais les logiciels, alors, les logiciels, ce sont donc, sont compris maintenant dans les données publiques. Alors, c'est la France.
La loi de 2016.
Voilà, c'est la France a fait ce choix. C'est pas un choix imposé par l'Union européenne. La directive de 2019 laisse le choix aux États de décider que les programmes d'ordinateur, les codes sources sont des données publiques. En France, c'est le choix qui a été fait. Donc, en tant que données publiques, elles doivent être diffusées. Et elles doivent être, on doit pouvoir les réutiliser. Donc, a priori, si c'est produit par un établissement public, eh bien, ce sont des logiciels qui suivent la science ouverte et donc des logiciels libres.
D'accord. Alexandre ?
Moi, je dirais aussi qu'il y a cette fois, au moins dans la rhétorique, mais, en tout cas, mais aussi dans les pratiques, il y a des normes des scientifiques. Il y a une référence diffuse au principe du libre, avec l'idée que si, par exemple, un code source doit être ouvert pour qu'il soit transparent, donc pour qu'il soit reproductible, donc qu'on ait des meilleures pratiques scientifiques. Mais bon, déjà, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il ne suffit pas qu'un code source soit transparent pour que ce soit reproductible. Mais il y a, je dirais, peu de conscience des quatre libertés ou ce genre de référence classique.
Rappelle-nous les
du
quatre
libre.
Libertés du logiciel libre. Moi, en quatre mots. Hein.
Moi, je crois que toi, tu connais mieux que moi.
Mais hein, c'est toi l'intervenant, c'est pas moi.
D'accord. Bah, disons, pour moi, le plus important, c'est qu'il y a un côté. Il y a la première. C'est-à-dire celle que le par exemple dans le cas des articles, que le texte soit ouvert à tous, c'est quelque chose qui est, c'est comme ça que beaucoup de gens le comprennent. Mais par exemple la question de la réutilisation, c'est quelque chose qui est très 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 mal compris dans le milieu scientifique, même si on se réfère au logiciel libre en tant que inspiration de la science.
D'accord. Alors les quatre libertés, c'est utiliser, étudier le fonctionnement, modifier, redistribuer. Voilà. Et c'est la dernière qui fait la communauté, le fait qu'on redistribue, qui n'est pas forcément une obligation. D'ailleurs, on va le rappeler en fonction des licences. Mais...
Et par exemple, les articles, les publications scientifiques sont souvent en licence Creative Commons BY, donc qui
BY.
BY.
Ah bail, attribution. Bah, attribution, d'accord.
Attribution, voilà. Ouais. Et j'essayais de le dire en français, mais donc, du coup. C'est quelque chose qui est, tout le monde est content parce qu'on peut lire l'article, mais personne ne se rend compte, par exemple, qu'on pourrait très bien copier-coller des morceaux d'articles, de plusieurs articles sous cette licence, et en faire un article. Et que, oui. Et que ça paraît délirant même. Mais c'est quelque chose qui est en tension avec des normes, par exemple, de qu'est-ce que c'est que le plagiat.
Ah, ça veut dire que, alors la question est intéressante, parce que je vais laisser d'ailleurs Mélanie réagir là-dessus. Ça veut dire que tu supposes, ou en tout cas tu sous-entends que du point de vue du scientifique, ce genre de licence pourrait encourager effectivement un sorte de plagiat entre guillemets, quelque chose qui n'est pas forcément super bien vu dans le monde scientifique, c'est ça? Et je laisse Mélanie réagir derrière.
Oui, mais sauf que ça dépend des communautés, encore une fois, mais que le plagiat, c'est une norme qui vient de la littérature, pas de la science. Par exemple, en science, ce qui compte, c'est le premier à publier, donc vous pouvez publier la même chose ensuite.
D'accord.
Vous êtes le deuxième, donc ça compte pas.
Ok. Mélanie ?
Oui, en fait, je crois que là, il faut faire attention. C'est-à-dire que la science ouverte, c'est rendre facile l'accès, l'interopérabilité, la réutilisation. Mais réutilisation, ça ne veut pas dire qu'on va puiser et puis on va faire ça à sa sauce. Sur l'écrit, on n'est pas dans le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a même les logiciels, il y a cette question d'attribution. C'est-à-dire citer sa source, citer ce qu'on emprunte pour attribuer à la bonne personne l'extrait. Et donc, dans l'écrit, eh bien, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire que si on récupère une phrase, un paragraphe, eh bien, il y a des guillemets, c'est une convention, on cite sa source, on dit qui a écrit cela avant, et on peut très bien intégrer effectivement ces extraits dans un autre développement.
Alors, je vais juste préciser que quand tu parlais tout à l'heure, Alexandre, de la licence Creative Commons attribution, le attribution veut exactement dire ce que veut dire Mélanie.
Bien sûr.
C'est qu'on cite. Après, il y a d'autres licences libres. Dans les musiques qu'on a diffusées aujourd'hui, certaines sont sous licence libre attribution. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attribue, on parle de ça,
bien
on
sûr.
Met les liens, etc.
Bien sûr.
Alors, le temps passe super vite. Il nous reste encore un petit peu 10 minutes et quelques, mais rassurez-vous. On reviendra un petit peu sur le logiciel si on a besoin, mais je voudrais quand même qu'on avance pour être sûr qu'on aborde tous les points qu'on avait prévus, parce que notamment Mélanie a cité deux choses, hein, enfin plusieurs choses, mais notamment le plan de la science ouverte, donc 2021-2024, dont on se rappelle l'objectif, hein, 100% de science ouverte pour les recherches publiées sur fonds publics. Et tu as parlé aussi, ou peut-être que tu n'as pas encore parlé, mais je vais le citer, le comité pour la science ouverte dont tu fais partie et dont l'un des co-présidents est d'ailleurs Roberto Di Cosmo. L'autre est François Pellegrini, qui est chercheur à l'université de Bordeaux et membre du collège de la CNIL notamment. Alors, c'est quoi ce plan national de la science ouverte et c'est quoi ce comité pour la science ouverte? Quelles sont les relations? Mélanie.
Alors, ce plan national pour la science ouverte, c'est une démarche de la France de s'inscrire activement dans la science ouverte, donc de donner aussi sa vision de ce que devra être la science ouverte. Il faut savoir que la France est prise dans un mouvement européen, l'Union européenne s'est engagée dans son programme à promouvoir la science ouverte. C'est un mouvement mondial, les autres États, il y a des accords multilatéraux en sciences ouvertes, et donc la France, elle, a voulu se positionner, et donc pour cela a créé ce plan national en 2018 pour accompagner ce mouvement, et là on est en deuxième phase, c'est le deuxième plan national pour la science ouverte qui couvre la période 2021-2024 et qui vise à généraliser les pratiques de la science ouverte, à partager et ouvrir les données de la recherche. Et donc, a été ajoutée dans ce programme la promotion des codes sources produits par la recherche. Donc initialement, ce comité national, il est composé encore de 4 collèges. Un collège concernant les données de la recherche, un deuxième sur les compétences et la formation, un troisième sur les publications et enfin le collège européen et international. Et là, le groupe de travail auquel je participe, eh bien, va être transformé en un collège intitulé Code source et logiciels, parce que on le voit finalement, les logiciels ont une place essentielle dans la science ouverte en tant qu'outil et puis en tant que simplement objet de cette recherche.
D'accord. Tu voulais réagir, Alexandre, ou...
Non, ça me paraît une excellente définition.
D'accord. Et donc, le prix dont on parlait tout à l'heure, de la science ouverte, du logiciel libre et de la recherche, c'est ce comité qui t'en charge de faire le choix?
Alors, c'est ce groupe qui a créé ce prix, ces prix, parce qu'ils sont 4. C'est une initiative qui va être reconduite tous les ans, qui va être suivie par le collège, avec cette idée vraiment de mettre la lumière sur des beaux projets qui montrent le dynamisme qu'il y a dans ce domaine et qui donne exemple aussi pour d'autres projets. Et puis par ailleurs, ces derniers jours, là, ces derniers mois, en janvier et février, ont été organisés des ateliers où on a invité en fait les personnes à nous dire les points sur lesquels il leur semble important de travailler. Et donc c'est nous, on a une feuille de route fin du collège du code source et du logiciel libre. Et évidemment, c'est ces informations qui vont être présentées le 3 février prochain dans le cadre des Journées européennes de la science ouverte. Eh bien, toutes ces données vont nous indiquer finalement quels sont les ateliers sur lesquels on va plancher plus encore.
D'accord. Enfin, ça donne l'occasion, mais on n'a pas fini de préciser. Donc, les Journées européennes de la science ouverte, initialement, devaient avoir lieu en présentiel complète à Paris. Donc, la plupart des intervenants et intervenantes seront à Paris, mais ce sera diffusé en distanciel, donc sur le site. Vous retrouverez les références sur libreavoue.org. Et notamment, il y a des conférences le vendredi 4 et le samedi 5 février. Alors, beaucoup de choses peut-être en anglais. Je ne sais pas s'il y aura des interventions en français. Emmanuel nous dit que oui. Et ça va couvrir beaucoup de sujets. Il y a une partie logicielle. Il y a évidemment une grosse partie, je suppose, autour des médicaments, des pandémies, etc. Donc, je pense qu'il y a Roberto Di Cosmo ou peut-être François Pellegrini qui doivent intervenir. Est-ce que toi, Mélanie, tu interviens?
Non, c'est pas prévu.
Okay. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. C'est visible en ligne parce que je ne sais pas si les vidéos seront disponibles après.
Je pense aussi qu'il y a une traduction simultanée pour ce qui est en anglais.
Il y a une traduction.
Ça a été comme ça les autres années, je crois.
Ah, j'ai une question, alors je pense que c'est pour toi, Mélanie. Attendez, c'est sur le salon web, je vous rappelle, donc site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, n'hésitez pas à venir, il nous reste quelques minutes. Donc c'est une question, est-ce que les délires marketing basés sur la science, entre guillemets, pendant la pandémie de Covid-19 a eu une influence sur le travail du comité pour la science ouverte?
Alors je ne sais pas de quel délire marketing il s'agit.
La propagande, apparemment. Alors je ne sais pas exactement de laquelle il parle, mais...
Je ne sais pas.
Alors j'encourage donc la personne Shinobi qui a précisé éventuellement, c'est trop vaste. Voilà, c'est ça.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les débats qu'on a sur la désinformation motivent à encourager la science ouverte. Parce que par science ouverte, on entend quand même la diffusion de travaux de qualité. Donc c'est pas parce que c'est de libre accès et on encourage les chercheurs à publier directement leur recherche que cette recherche est de mauvaise qualité. Et c'est une recherche faite par des personnes qui passent du temps, qui confrontent leur travail avec d'autres. Et donc ça, c'est, je pense que dans ce contexte-là, en tout cas, c'est extrêmement important.
Alors, il nous reste peu beaucoup de temps. Je vous rappelle qu'il y a la dernière question, mais Alexandre, je vous laisse réagir.
Ouais, je voulais
réagir.
Juste dire que ce que me fait penser, moi, la pandémie, c'est que l'image de la science, en 2 ans, elle a radicalement changé.
Dans quel sens ?
Du point de vue du grand public. Au sens où, par exemple, des tas de gens, les médias, par exemple, ont découvert que c'était qu'un préprint. Et ses avantages, ses inconvénients. Et avant, c'était quelque chose, c'est un objet inconnu du grand public. Il y a aussi quelque chose qui s'est radicalement passé au point de vue d'une ouverture de la science, qui est l'apparition de quelques années avant, mais elles sont vraiment développées là pendant la pandémie, de plateformes qui critiquent les articles scientifiques. C'est comme Pupir, c'est une Pupir, c'est une plateforme qui, grosso modo, c'est un forum web où chaque fil de discussion est en fait un article identifié par son identifiant unique, et les gens commentent par exemple l'article le fameux article de Didier Raoult en mois de mars 2000, il y a 2 ans.
Je m'étais dit qu'on arrivait à faire une émission sur la science ouverte sans prononcer ce nom. Non. Vas-y, fais
bon, c'est effectivement un épisode important.
Effectivement,
parce que,
tu as raison.
Parce que du coup, cet article a été critiqué par d'horizons différents.
D'accord.
Statistiques, éthiques, etc.
Okay.
Pas simplement une communauté. Et d'autre part, le plus pire, c'est quelque chose qui a fait tomber des têtes. Par exemple, la manipulation d'images sous Photoshop.
D'accord.
Qui est une utilisation de logiciels classiques. Et comment dire, qui peut aller de la simple embellissement jusqu'à une fraude manifeste. C'est quelque chose, des tas d'articles scientifiques sont tombés parce que des gens ont repéré des retouches d'images sur, parce que c'est devenu faisable pour un amateur de voir ce genre de choses. Et donc, par exemple, au CNRS, des têtes sont tombées. Donc, au CNRS, ils n'ont pas une bonne image au point de vue science ouverte de ce que représente cette plateforme.
J'imagine.
Voilà.
Ils ont pas l'habitude.
C'est une forme radicale d'être ouverte, qui est critiquable, hein, parce que ça peut être, mais alors n'importe qui peut dire n'importe quoi, peut être, comment dire, se venger de quelqu'un, par exemple, etc. Un peu comme dans Wikipédia aussi.
D'accord. Je vois bien que tu aimes beaucoup l'analogie Wikipédia.
Oui.
Bon, on arrive à la fin de notre échange. Hein. On reparlera de ce sujet, on y reviendra, ça c'est évident. Je vous laisse le mot de la fin sous forme de conclusion, donc soit pour ajouter quelque chose, mais soit plutôt pour me dire, en fait, en moins de 2 minutes, les points essentiels à retenir pour les gens qui nous écoutent. Qui veut commencer ?
Alors moi, je voudrais juste ajouter une information. Il y a un appel à manifestation d'intérêt pour rejoindre le collège de code source et logiciel. C'est très important parce que on veut élargir la communauté des experts qui constitue ce collège. C'est un collège pluridisciplinaire. Il y a des informaticiens, des juristes, des économistes, de la science, de l'information, etc. Donc si cela vous intéresse, allez sur le site et répondez à cet appel à manifestation d'intérêt.
Je crois que ton voisin va sans doute m'en montrer un intérêt peut-être.
Bon. Oui, bah, il n'y a pas d'historien effectivement.
Alors, Alexandre Roquet, en moins de 2 minutes, les points essentiels à retenir selon toi, et après on finira avec Mélanie.
Ok, alors pour moi, le besoin de science ouverte, ça s'interprète comme un symptôme que quelque chose, ou plusieurs choses, ne vont pas bien dans les pratiques scientifiques. Une crise de confiance. Et c'est quelque chose, si on se situe, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes frustrations d'une communauté à l'autre. En médecine, il y a une pression énorme, par exemple, pour échapper aux soupçons de collusion avec des intérêts privés. En physique des particules, il y a des conditions favorables pour un rejet unanime de la domination de la publication par les gros éditeurs, etc. Et donc mon point, c'est qu'il n'y a pas de solution globale. Et en ce qui concerne le logiciel, la communauté la plus visible, celle de l'informatique, elle a ses propres frustrations, comme par exemple l'action de la reconnaissance de l'écriture logicielle, à la contribution d'un programme. Mais le logiciel existe partout en science, et la question des utilisateurs, elle est souvent oubliée, au point d'en arriver à un déni. La grande majorité des logiciels ne seront jamais ouverts, et on ne peut pas résoudre la question de la confiance sans tenir compte de ça. Et voilà. Même les développeurs en informatique, qui appellent des librairies, par exemple, c'est en fait aussi des utilisateurs, et qu'ils ont des problèmes d'utilisateurs en plus de leurs problèmes de développeurs.
Ben merci Alexandre Roquet. Mélanie Clément-Fontaine ?
Je dirais que la science ouverte, c'est l'affaire de toutes et de tous. C'est-à-dire que c'est une opportunité incroyable de partager des connaissances. On a parlé de la publication d'articles qui ont été critiqués. Il faut penser aussi en tant que recherche, c'est-à-dire que quand on publie, ce sont des hypothèses qui sont mises à débat, mais à débat constructif. C'est-à-dire qu'on va se répondre, on va ensemble former former une œuvre qui est évolutive, collective, et à l'image finalement des logiciels libres.
Bah écoute, merci pour cette belle conclusion. Donc c'était Mélanie Clément-Fontaine, professeure de droit privé à l'université de Paris-Saclay, Alexandre Hoquet, historien des sciences, professeur à l'université de Lorraine. Je vous rappelle donc que ce week-end en ligne, il y a les journées européennes de la science ouverte. Nous mettrons sur le site libreavoue.org toutes les références qui ont été citées. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez sur libreavoue.org, vous retrouverez tout. Je vous souhaite écoutez, de belles fins de journée.
Merci pour votre invitation.
Et on va passer, on va faire une pause musicale, excusez-moi. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique d'Isabella Vanni qui échangera avec Mohican sur l'organisation d'ateliers d'émancipation numérique. En attendant, nous allons écouter un groupe français que nous aimons beaucoup. Le titre s'appelle L'air de rien, le groupe s'appelle Zincaro. On se retrouve dans 4 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
venons d'écouter L'air de rien par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Je précise que ce titre a terminé deuxième de l'édition 2021 de Zic Libre en Bib. Donc ce site de musique plus ou moins libre choisi par des médiathèques, et le site est une nouvelle version en cours de mise en place. Vous retrouvez les références sur le site de l'émission libreavoue.org. Nous allons passer au sujet suivant. Ma collègue est magique, je me trompe d'enchaînement, elle le fait quand même et elle assure. Donc, parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir ou avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanier, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le thème du jour, organiser des ateliers d'émancipation numérique avec notre invité Mohican de l'association Libérons nos ordi. Je vous passe la parole.
Merci Fred. Mohican tient un blog Liberto Nordi qui donne des conseils pratiques et propose des tutoriels pour aider les personnes à libérer leur informatique. Le blog s'adresse principalement aux débutants et débutantes de l'informatique libre, mais il y a aussi certains billets qui s'adressent à des personnes qui s'y connaissent déjà et qui sont à la recherche de ressources et conseils pour faire découvrir à leur tour les logiciels libres et leurs enjeux à leur entourage. C'est le cas d'un billet que Mohican a publié tout récemment et qui donne justement des conseils sur comment organiser des ateliers d'émancipation numérique. Le billet est plutôt long et articulé. On va essayer aujourd'hui de vous en présenter quelques points essentiels pour vous donner l'envie ensuite d'aller le lire en entier. Bonjour Mohican.
Bonjour à tout le monde.
Super, j'ai eu un petit blanc, j'ai eu peur, mais tout va bien. Merci d'être là avec nous. Je te propose de commencer avec un grand classique, une courte présentation personnelle. À toi la parole.
Voilà, donc Mohican, ça fait depuis 2005 que je tiens ce blog, Libère ton ordi. Voilà, donc c'est d'abord le fruit de ma propre expérience d'avoir aidé autour de moi des gens à s'émanciper, donc à passer à Linux ou à d'autres logiciels libres. Voilà, et puis petit à petit, donc c'est à disposition de tout le monde pour soit faire soi-même des changements, soit aider d'autres à adopter ces solutions alternatives.
Merci pour cette présentation.
Donc ça, c'est pour, oui, c'est pour le blog et voilà. Et en ce qui concerne l'association, donc elle s'est structurée essentiellement justement pour faire des ateliers d'une part ou pour aider d'autres structures à passer au logiciel libre.
Donc on disait que le billet que tu as récemment publié qui a attiré mon attention, donc organiser des ateliers d'émancipation numérique, bah une question assez simple. Qu'est-ce que c'est? Un atelier d'émancipation numérique, comment tu le définirais? À qui s'adresse? Quels sont les objectifs?
Donc déjà, c'est des ateliers grand public. La grande différence avec un atelier informatique plus classique, c'est que là, non seulement on va manipuler, on va peut-être installer des applications, on va apprendre à s'en servir, mais il y a aussi une volonté donc, de sensibiliser aux logiciels libres et aux services éthiques. Voilà. Et donc on fait les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois quelque chose de pratique et d'utile, et en même temps on explique pourquoi on fait intervenir à ce niveau-là des logiciels libres, en quoi ils vont justement permettre de répondre à ces problématiques.
Est-ce que tu peux nous faire des exemples concrets d'ateliers d'émancipation numérique organisés par ton association?
Alors déjà c'est assez différent si on fait un atelier ponctuel où il n'y aura pas de suite, donc juste une fois des gens qui viennent et qui repartent, ou alors si on fait une série d'ateliers où il va y avoir un suivi, donc c'est les mêmes personnes plus ou moins qui vont revenir soit de jour en jour ou de semaine en semaine. Voilà, donc si on fait un atelier ponctuel, là on va essayer quelque chose qui va être immédiatement utile, un bénéfice immédiat pour les gens qui viennent. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. En général, ça va être soit sécuriser sa navigation web, changer de navigateur, prendre Firefox notamment, mettre un bloqueur de navigateur et changer de moteur de recherche. Donc là, déjà, les gens, ils verront plus de publicité dans leur navigation web et pour eux, ça va être un progrès immédiat, perceptible, palpable. Voilà, l'autre atelier ponctuel qu'on fait souvent, c'est installer Blocada, qui est un bloqueur de pub et de tracker pour les smartphones, donc qui va agir sur l'ensemble des applications du smartphone, aussi en évitant qu'elles diffusent de la publicité ou qu'elles vous traquent.
Et ça, c'est pour des ateliers ponctuels, tu disais, un bénéfice immédiat. Donc, il faut que les personnes puissent mettre en pratique tout de suite, qui retournent chez elles avec les changements effectués. Et un exemple, par exemple, d'ateliers pour lesquels il faut un peu plus de temps.
Alors, les séries, ça permet de balayer plus d'applications ou plus de logiciels. Voilà, donc on peut aller plus loin que ce que j'ai présenté là. On peut s'intéresser aux messageries instantanées, on peut s'intéresser aux applications de navigation géographique.
Le changement de boîte de messagerie aussi, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes. Tu en parles dans ton blog, et là aussi, peut-être qu'il faut un peu plus de temps. D'après ton expérience,
voilà, oui. Un peu plus de temps, parce que d'abord, il faut faire un choix. Parce que le choix n'est pas forcément, c'est pas nous qui allons l'imposer. Donc, on va présenter plusieurs alternatives et les gens vont faire leur choix. Voilà. Et ensuite, il va y avoir des choses un peu plus complexes, comme retransférer ces messages de son ancienne boîte vers la nouvelle pendant une période de transition, par exemple.
Et d'après ton expérience, quelles sont les conditions qui facilitent la réalisation des objectifs dont tu as parlé, c'est-à-dire à la fois une sensibilisation envers les logiciels libres et la satisfaction de besoins concrets? C'est quoi qui marche, qui fait si que tout ça arrive?
Donc, ce qui est important, c'est de répondre à un besoin du public. Donc, le besoin du public, il n'est pas totalement défini au départ, notamment parce que en général, les gens ne connaissent pas les alternatives, ils ne savent pas, même pas forcément qu'il existe des alternatives libres, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire non plus. Mais ils peuvent avoir des besoins très immédiats, comme ne plus avoir de spam, ne plus avoir de virus, ne plus voir de publicité, ou ne plus être traqué. Ça peut aussi être un besoin qui s'exprime, parce que bon, de plus en plus dans les médias, on parle quand même du fait que les GAFAM exploitent vos données personnelles.
Et quelles sont, par contre, les erreurs à ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour éviter qu'il y ait un couac?
Ben, je dirais que ce qu'il faut peut-être éviter, c'est tout de suite de commencer par donner la définition de la licence libre, les quatre points de la définition.
Ce que l'April fait quand les gens viennent sur notre stand, mais c'est pas le cas des ateliers d'émancipation numérique. Il faut bien faire la différence.
Voilà, c'est pas du tout le même public. Donc, il faut pas commencer par quelque chose qui est abstrait, difficile à appréhender et à comprendre, et où on voit pas trop. En fait, les gens vont comprendre l'intérêt du livre quand ils vont voir l'effet sur leur machine, le fait que ça change des choses pour eux.
D'accord. Donc, tu pars d'un besoin concret, voir les bénéfices et tout de suite expliquer que ces bénéfices sont possibles justement parce qu'il s'agit de solutions libres.
Et quelles libre sont... et éthique. Oui. Et j'insiste sur le fait éthique, parce qu'en fait, de plus en plus, on a recours à des services Internet, sur le mail, mais en fait, la plupart des applis, elles se basent sur des services Internet. Et donc, libre ne suffit pas, en fait. Peut-être que ces applis utilisent des logiciels libres, mais ça ne suffit pas. Faut-il que le service soit rendu par un fournisseur qui est éthique et qui donc assure qu'il ne va pas exploiter les données des gens.
Et c'est le cas, par exemple, des organismes qui font partie du collectif Chatons, donc hébergeurs éthiques, qui s'engagent sur, qui ont signé une charte où s'engagent effectivement à ne pas exploiter les données personnelles. Quelles sont les réactions des personnes qui participent à ces ateliers? Tu as dit qu'il s'agit de personnes débutantes. Comment elles réagissent? Ils sont inquiets, ils se relaxent à un moment pendant l'atelier, ils sont contents à la fin, ils t'écrivent, ils te recontactent.
Alors, donc c'est des ateliers collectifs, donc c'est déjà ce qui est intéressant, c'est que tout le groupe va faire la même chose en même temps. Donc ça permet aussi aux gens de s'entraider entre eux, et bien sûr les animateurs viennent voir où ils en sont, les aider. Donc c'est le fait que ça soit une démarche collective, c'est important. Du coup, la personne, même si elle rentre chez elle après, elle sait qu'elle n'est pas la seule à avoir fait ce choix, à avoir installé ses applications. Ça, c'est le point important. Voilà. Et après, bien sûr, on laisse nos coordonnées. Et si parfois des gens nous recontactent pour aller plus loin, par exemple, ils demandent des conseils sur maintenant on a fait ça, donc on voudrait faire quelque chose de plus. Voilà.
C'est vrai que ce qu'on appelle l'accompagnement après-vente, entre guillemets, est important. Il ne faut pas que la personne se sente seule. D'autant plus que, comme tu l'expliques bien dans ton billet, ça me fait sourire à chaque fois. Un nouveau logiciel installé, c'est normalement le suspect numéro un s'il y a un souci sur sa machine.
Absolument, parce que c'est difficile pour les gens qui comprennent pas trop comment ça fonctionne de diagnostiquer une panne. Donc, la première panne qu'ils vont avoir après un atelier, ils vont la mettre sur le compte de ce qu'on vient de changer pour eux, en fait, même si ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc là, éventuellement, ça peut être un cas où ils vont me recontacter en disant, ben voilà, t'as changé ça sur... nous avons changé ça sur mon ordi ou sur mon smartphone, ça marche plus. Voilà. Et là, je vais voir avec eux de quoi il s'agit. Et souvent, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui a été fait en atelier.
Une autre chose dont tu parles dans ton billet, justement, c'est, à part le fait du suspect numéro un pour les logiciels, c'est aussi la résistance au changement, justement, les peurs, les inquiétudes par rapport à ce qui peut se passer. Et cela est aussi dû, en fait, au fait que les personnes ne connaissent, nous utilisons tous l'informatique, tous et toutes, mais en fait, on ne sait pas vraiment comment marchent les ordinateurs. Donc, on prétend que la machine fasse les opérations qu'on lui demande de faire, mais on ne s'intéresse pas à comment cela arrive. Donc il y a aussi un travail de démystification un petit peu de ce que c'est un ordinateur, qui à la base est complètement bête, hein. Ce sont des humains qui lui donnent les instructions, et puis on parle aussi dans ton billet. Est-ce que
la démystification, si j'ai la possibilité de faire une série d'ateliers, je vais consacrer une partie d'un atelier à ça, effectivement, au début, pour montrer déjà. Une chose qui est importante à montrer aux gens, c'est que leur smartphone est un ordinateur, donc de faire le parallèle entre les deux pour qu'ils considèrent vraiment cet appareil comme un ordinateur et pas juste comme un téléphone amélioré. C'est un des points importants. Après, en ce qui concerne la résistance au changement, oui, forcément, elle est là. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les gens se sentent accompagnés. C'est-à-dire pas seulement le temps de l'atelier, mais qu'ils aient les moyens ensuite de demander de l'aide, que ce soit à nous ou à une association plus suivie.
Très bien. En ces moments, c'est un peu plus compliqué d'organiser des ateliers. Hein. On est encore en plein pandémie, c'est pas fini. Mais on espère qu'on pourra en organiser plein bientôt et que tes conseils puissent être utiles à d'autres organisations ou à d'autres personnes qui veulent organiser, par exemple, un atelier aussi dans son cercle d'amis, dans son entourage. Pourquoi pas? Il y a des bibliothèques, d'associations qui peuvent mettre à disposition des locaux. Ça peut être aussi chez soi. La question classique qu'on fait à la fin de nos chroniques, c'est le mot de la fin. Hein. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer, l'idée clé par rapport aux ateliers d'émancipation numérique?
Bon, déjà, je voudrais te dire que sur notre blog, donc, on retrouve pas mal de ressources. Dans la page ressources, tous les diaporamas, les déroulés d'ateliers, tout ça est réutilisable.
Si vous sous licence libre.
Sous licence libre, donc vous pouvez tout à fait reprendre nos documents ou les adapter à votre cas particulier. Voilà. Et le conseil que je donnerais pour qu'un atelier soit fructueux, c'est vraiment que les gens repartent de l'atelier avec quelque chose qui leur a apporté un bénéfice immédiat et qui va durer dans le temps.
Voilà, une impression positive tout de suite. Merci beaucoup Moïcan pour ta participation à l'émission. Je vous invite vraiment à aller lire l'article en entier. Et c'était la chronique de Le Libre fait sa com. Je redonne la parole à Fred. Merci encore Moïcan.
Merci à tous.
Ben écoute, merci Isabella, merci Moïcan. Donc c'était effectivement ta chronique que tu as fait en plus de la régie, donc Le Libre fait sa com avec Moïcan de Libérons nos ordi, et toutes les références sont sur le site de l'émission libreavoue.org. Notre émission se termine. Non, nous approchons de la fin de l'émission. Nous avons terminé par quelques annonces. Ah. Alors, des annonces rapides. Mohican a dit qu'un smartphone est un ordinateur. Et effectivement, et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le Sénat actuellement étudie une proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d'accéder à Internet. En gros, les smartphones, les ordinateurs, les téléconnectés, etc. Et sans qu'il soit ici question de discuter du fond de la proposition de loi, sa rédaction actuelle pourrait laisser craindre des atteintes à certaines libertés informatiques des consommateurs et consommatrices, notamment la possibilité de vendre ou d'acheter des ordinateurs sans système d'exploitation. Donc nous avons transmis des propositions d'amendements que vous retrouverez sur notre site april.org. En mars, on espère qu'il y aura plein d'événements en présentiel, et notamment pour le Libre en fête autour du 20 mars. Découvrez le logiciel libre partout en France. Les dates retenues pour l'édition 2022 sont du 5 mars au dimanche 3 avril. Le site, c'est libre-en-fête.net. Vous pouvez inscrire vos événements ou retrouver vos événements, et s'ils ne sont pas lieu en présentiel, ils auront lieu sans doute en distanciel, mais on espère quand même qu'il y en aura en présentiel. Le pôle d'expertise logiciel libre d'Etalab que nous avons reçu récemment dans l'émission fait une permanence en ligne chaque lundi de 16h à 17h pour répondre à toutes les questions. La première a eu lieu lundi 31 janvier. C'est ouvert à toute personne intéressée et les membres du pôle répondent aux questions. Vous retrouverez les références pareil sur libreavoue.org pour rejoindre ce pôle, cette permanence du pôle d'expertise logiciel libre d'Etalab, donc chaque lundi de 16h à 17h. Et vous retrouverez évidemment sur le site de l'agenda du libre, donc agendadulibre.org, tous les événements libristes en cours. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Jean-Christophe Becquet, Mélanie Clément-Fontaine, Alexandre Hoquet, Isabella Vanni, Monican, aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabella qui a été multitâche. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous sommes ravis de vous savoir fidèles au rendez-vous régulier de Libre à vous le mardi à 15h30 ou encore en podcast. Antoine de Saint-Exupéry nous rappelle d'ailleurs l'importance des rendez-vous réguliers des rites. Dans le livre Le Petit Prince, à un moment il y a la rencontre du Petit Prince avec un renard. Ils discutent et le lendemain, le petit prince revient, mais pas à la même heure. Alors le renard lui dit « Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » Donc merci à vous pour votre présence. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 8 février 2022 à 15h30. Donc c'est Isabella qui animera le sujet long. On ne sait pas encore pour le moment quel sujet on abordera, mais on verra bien la semaine prochaine. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 8 février. Et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune. Retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm.